Le statut du créateur, voilà ce sur quoi le ministre de la Culture a promis d'engager une réflexion il y a quelques jours. C'est une très bonne idée, mais sur le papier, ça peut interroger le statut du créateur. Ça veut dire quoi, le statut du créateur? On dirait qu'on parle du bon Dieu, ce qui en dit beaucoup quand même sur la façon dont on considère en France celles et ceux dont le métier est de créer, redéfinir leur place économique, sociale et culturelle, comme le promet le ministre aujourd'hui. Ben, c'est une bonne nouvelle, parce que les artistes, qu'ils soient créateurs ou non, dans notre imaginaire collectif, on les associe à tout, sauf à la vraie vie. Économique, social, culturel. L'artiste, vous le savez bien, c'est cet être un petit peu à part, pour ne pas dire hors sol, un peu dans la lune, inspiré par la lune, forcément privilégié puisqu'il vit d'amour, d'eau fraîche, comme chacun sait, et de poésie. Alors je vais vous dire, cliché pour cliché, je préfère encore celui de l'artiste maudit. Parce que la réalité, en ce qui concerne les auteurs par exemple, c'est que 90% d'entre eux gagnent moins que le SMIC, que 2/3 d'entre eux sont contraints d'exercer un autre métier, et que tous, je dis bien tous, ont conscience de l'essentielle précarité de ce métier. À ce prix-là, on peut effectivement se demander, au risque de blasphémer, s'il ne faut pas revoir en profondeur le statut du créateur.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est auteur, figurez-vous, après notamment « Et mon cœur transparent »,« Ce que je sais » de Vera Candida ou encore « Soyez imprudents, les enfants », son 10e roman « Personne n'a peur des gens qui sourient » paraîtra mercredi prochain aux éditions Flammarion. C'est la cavale inquiète et suspecte d'une mère de famille et de ses deux filles qui s'installent dans une maison de famille isolée au bord d'un lac en Alsace. Suspense, fantôme, retournement de situation, attention. Bonjour Véronique Ovalde.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là tout d'abord, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui vous concerne. Comment est-ce qu'ils vivent, les auteurs, aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, je pense qu'ils vivent pas très bien, comme vous le disiez à l'instant, que c'est difficile parce qu'on est dans une situation où on a un très bon statut symbolique en fait en France, particulièrement en France. Mais que c'est pas ça qui fait manger vos enfants, d'ailleurs. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on doit revenir, particulièrement pour les écrivains. C'est là où je suis plus au point que pour, disons, la création de façon générale et globale. Et donc, je pense qu'en effet, il y a un autre partage de la valeur à imaginer. Parce que je crois que même notre lectorat, notre public ne sait pas, par exemple, que quand on a, on le voit bien dans les salons, dans les festivals, quand on voit les lecteurs qui viennent nous voir, ils ne savent pas que sur un livre, par exemple, tout simplement sur un livre de poche je sais pas, 7 euros, en fait, l'auteur va toucher 5% sur le prix de vente hors taxe. Donc, alors je dis des gros mots, je dis plein de chiffres là, mais il va toucher 30 centimes à peu près, environ 30 centimes. Et donc, ça, vous imaginez combien il faut en vendre pour à peu près faire tourner la maison. Donc c'est quelque chose qu'en effet qui serait intéressant de revoir ce partage-là de la valeur.
Et là c'est autant à l'auteur qu'à la lectrice et autant à l'éditrice que je m'adresse aujourd'hui. Cette précarité, est-ce qu'elle a des conséquences sur la production littéraire française ? À votre avis?
Alors je pense qu'en fait il y a quand même des garde-fous, je pense, grâce à beaucoup de lois qui ont encadré et qui protègent la librairie par exemple et l'édition indépendante en France. Donc ça nous aide, ça aide les auteurs, ça aide les éditeurs et ça aide la librairie. Donc ça aide en fait la diversité, on va dire, de la production éditoriale française. Mais en même temps, on est dans une espèce de course folle de surproduction.
Voilà, c'est
vraiment l'énorme gros problème actuellement. Et c'est ça dont on va parler aux prochains états généraux du livre qui auront lieu en juin prochain. C'est qu'il y a un problème de surproduction. Alors surproduction, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, c'est les auteurs qui vont être malheureux, puisqu'on va peut-être que se produire, on va peut-être que publier finalement que les auteurs les plus commerciaux. Mais en vrai, cette surproduction, c'est un vrai cette édition maximum là où on a toujours des centaines et des centaines de livres qui sortent à chaque rentrée. C'est quand même un miroir aux alouettes,
oui.
Parce que en fait, il y a la majorité de ces livres, mais la très grande majorité qui tombe au fond d'un trou.
Ouais. Alors Franck Riester, le ministre de la Culture, qui était à Angoulême en fin de semaine dernière, il a annoncé qu'un statut du créateur était à l'étude pour les auteurs de BD, mais on pourrait aussi bien parler des auteurs en général. Il annonce dans son discours engager une réflexion plus large sur le statut de créateur, afin de redéfinir sa place économique, sociale, culturelle, comme je le disais. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous attendez du ministre ? Protéger les auteurs, ça passerait par quoi, Véronique Ovalde ?
Oh, je pense que ça passe par pas mal de choses, c'est qu'en fait on doit regarder en fait ce qui se passe et essayer de rééquilibrer ce qui se passe en fait au niveau de leur statut social, bien sûr, rééquilibrer ce que je disais à l'instant, la relation entre les éditeurs et les auteurs. Et puis là récemment j'entendais, et je crois que c'est Marie Cellier hier qui a fait une tribune, qui a écrit une tribune, Marie Cellier qui est la présidente de la SGDL, du syndicat en fait des auteurs, qui écrivait finalement, qui s'adressait au ministère de la du budget, le ministère des finances, parce que il est en projet d'une loi pour taxer finalement les GAFA. Donc Google, Apple, Facebook, etc.
Amazon,
Amazon bien sûr, parce que pour rééquilibrer et puis ce que ce soit, c'est une mesure de justice et d'efficacité. Et donc ça c'est très intéressant, mais évidemment comme ce sont des gens qui vivent, les GAFA qui vivent de la production de contenu, et donc des créateurs qui vivent en fait évidemment à cause des, grâce aux créateurs, en fait ce serait quand même très très bien s'il y avait une petite, si les auteurs pouvaient bénéficier de cette taxe qui sera donc qui s'élèvera peut-être à 500, je crois, à 500 millions d'euros, c'est pas mal. Oui, donc je pense qu'il y a des choses à faire,
c'est,
il y a
central,
plein de choses
même
à faire. Oui,
en tout cas tous ces enjeux, Véronique Valdé, ils invitent d'autant plus à s'interroger sur la raison d'être d'un acte littéraire aujourd'hui. Quel sens est-ce que ça a pour vous de continuer à écrire des livres dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui ?
Alors c'est deux choses différentes, hein. Écrire et publier. Je pense que écrire, ça c'est quelque chose que voilà, que vous faites même sans publier. Si c'est quelque chose qui vous habite, qui est présent dans vos vies, et
mais
sur
si
qui
je
donne
parle
du
de
sens,
livre, je parle d'objet publié.
De livre, l'objet livre. Alors je pense qu'en fait c'est très anti-moderne de publier des livres papier. Vous voyez, j'ai l'impression parfois d'être un dinosaure, mais et puis d'aimer ça profondément. Mais je suis convaincue évidemment de la nécessité de cette parole livresque de la concernant la littérature. Ça me semble quelque chose de fondamental, ce qu'on peut dire du monde et ce qu'on peut, la façon dont on peut cartographier le monde, la société, nous en tant qu'humains, et avec ce privilège merveilleux et cette malédiction qui est la nôtre de savoir que voilà, nous sommes périssables.
Qu'est-ce que c'est précisément un livre pour vous chez qui enfant les livres n'avaient pas vraiment droit de citer en plus?
Oui, mais je pense justement. Alors, je pense que comme toute chose qui n'a pas le droit de citer, comme toute chose interdite, ils étaient très très. C'était quand même un objet de désir. Ils étaient très désirables en fait, les livres, bien sûr. Peut-être que c'est ça aussi le truc. Il faut peut-être empêcher les gens de lire. C'est ça le vrai truc. On va les empêcher de lire. Vous allez voir, ça va être fou en fait. Tout le monde va vouloir avoir des livres chez lui et se mettre à lire et réfléchir. Et ouais, je pense qu'en fait, c'était un objet de possibilité de connaissance et de bouleversement d'émotions bien sûr, et de bouleversement en fait de mental.
Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire. Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train de venir. C'est à l'opposé du cinéma. À l'opposé du théâtre, à l'opposé de toute lecture, peut-être c'est le pire. Il y a des gens qui feuillettent des livres pour se donner des idées. C'est inconcevable, enfin. C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. Ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi.
Marguerite Duras, en 1993, c'est vous, Véronique Valdé, qui avez choisi de nous la faire entendre, cette archive, ce matin. Pourquoi ?
Mais c'est totalement bouleversant, ce moment, ce passage où Marguerite Duras nous dit un livre, c'est la nuit. Et c'est tellement... On sent une telle sincérité, il n'y a tellement pas de posture dans cette foi qu'elle a dans le livre, que voilà, moi ça me renverse.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, à votre avis, un livre c'est la nuit?
Alors je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais en tout cas moi ce que j'entends c'est cette obscurité.
Oui.
Dont on parle, ces ténèbres, parce que c'est ça en fait, c'est traverser des ténèbres quand on écrit, c'est traverser des ténèbres quand on va lire et quand on va à la rencontre d'un auteur. Donc c'est l'écriture, c'est au fond, c'est vraiment marcher les yeux fermés.
En tout cas, ce qui ressort de ce très bel entretien entre Marguerite Duras et le cinéaste Benoît Jacquot, qu'on peut visionner très facilement sur Internet, c'est la solitude constitutive de l'écrivain. Pour vous, qu'est-ce que c'est au fond, un écrivain, c'est un être seul.
Ah oui, c'est constitutif, comme vous le dites, c'est nécessaire la solitude. C'est quand même des milliers d'heures tout seul d'écrire un livre. Alors je crois qu'il faut, alors soit il faut être à peu près à l'aise avec soi, ce qui est pas toujours le cas des écrivains, ou alors faut pas être très très à l'aise avec ses contemporains, ce qui est souvent le cas des écrivains. Et donc je crois qu'en fait, quand on décide, ou on, je sais pas si on décide, mais en tout cas quand ça vous tombe dessus d'avoir cette relation particulière à l'écriture et à ce soliloque permanent et qui en fait qui vous habite et qui vous envahit et qui vous encombre, je pense qu'en fait on est nécessairement quelqu'un d'une grande solitude. Et c'est très très chouette la solitude aussi.
Dans quel état précisément est-ce que vous êtes quand vous écrivez ? Dans quel état est-ce que ça vous met, cet
alors,
acte d'écrire ?
Alors ça paraît peut-être un peu enfantin et magique, cette relation que en tout cas moi j'ai avec l'écriture, qui est en fait une forme de transe. C'est-à-dire qu'en fait dès que je me mets à écrire, il y a tout un tas de sonorités, de sons, je marmonne quand j'écris, et il y a plein d'images, énormément d'images qui viennent. Donc c'est une forme de convocation. Voilà, je dirais c'est une convocation. On attend parfois l'inspiration. Moi je sais pas, elle vient pas toute seule l'inspiration, j'ai besoin de la convoquer. Donc voilà, il y a quelque chose de convocatoire pour moi dans l'écriture.
Et précisément c'était le cas lorsque vous écriviez ce nouveau livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, Personne n'a peur des gens qui sourient.
Ah oui, c'était vraiment le cas. J'aspire à cette relation avec l'écrit. Ce côté convocation d'une petite personne à l'intérieur, de cette petite fille, que souvent je dis ça, c'est la petite fille à l'intérieur, la petite fille avec la hache dont je parle dans le livre, qui est là et qui me parle.
À propos de petite fille avec la hache, il y en a une dans notre émission à qui cette définition irait fort bien, c'est pathologique, c'est la culture et son actualité passive, agressive, ronchon et soupe au lait. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 1er février ?
Jalousie me dit qu'elle est belle, te veux-je.
Les Solidays se mettent à l'aise. L'édition 2019 du Festival de lutte contre le sida qui se tiendra du 21 au 23 juin à l'Hippodrome de Longchamp à Paris vient de révéler ses premières têtes d'affiche, mixant révélations pop et poids lourds de l'industrie. La manifestation promet un début d'été caliente. On y attend l'incontournable Angèle, le rappeur-chanteur L'Homme Pâle, les prodiges électro de The Blaze, mais aussi le Supreme NTM, Hocus Pocus, Diane Wood, Moa La Squale, Parcells ou Salut C'est Cool. Ouverture de la billetterie jeudi prochain.
En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action !
Court-métrage et grand talent, c'est aujourd'hui qu'est inaugurée la 41e édition du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, la plus grande manifestation du genre dans le monde. Au programme 163 films en compétition, une section court d'histoire consacrée au conflit israélo-palestinien et puis surtout un focus sur le Canada qui permettra de découvrir les premiers courts de grands cinéastes comme Denis Villeneuve ou Jean-Marc Vallée. On y court.
On peut encore se permettre de jouer avec ça et de mettre en danger le réel, avec une espèce d'abstraction. Parce que attention, ça n'en est pas quand même. Hein. Je tombe jamais là-dedans. Je ne tomberai pas dans cet abîme.
Dernière bande pour Barbier, peintre et bédéiste, avant-gardiste et sulfureux, le dessinateur Alex Barbier est mort mardi. Il avait 68 ans, chantre d'un univers halluciné, aux couleurs criardes, à la sensualité affolée. Il avait fait Les Belles Heures de Charlie Mansuel, puis Harakiri, au début des années 80. Publié par la petite maison indépendante Frémok, Alex Barbier laisse une dizaine d'ouvrages, dont le stupéfiant Lycaon, le très cul de la chose, ou l'ultime dernière bande. En 2015, il était à l'honneur d'une grande rétrospective au Festival d'Angoulême. Paix. Respect.
Comme une espèce de proposition culturelle géolocalisée, c'est-à-dire que le jeune, sous son application, pourra voir là où il est toutes les propositions qui seront possibles dans son environnement.
Passe décisif après des mois d'attente. C'est aujourd'hui qu'est lancée la première vague d'expérimentation du pass culture promis par le président. Près de 12 000 jeunes âgés de 18 ans et originaires du Bas-Rhin, de l'Hérault, du Finistère, de la Guyane, de la Seine-Saint-Denis vont ainsi voir leur compte crédité de 500 euros pour financer leurs activités artistiques. Avec ce pass, ils pourront s'abonner à des sites de streaming, se payer des stages de danse, de chant, de piano, s'acheter des livres ou des CD, aller au théâtre ou au musée. On dit ouais ouais. Et l'auteur, Véronique Ovalde, invitée de Boomerang ce matin pour ce livre « Personne n'a peur des gens qui sourient » en librairie mercredi. Et ce titre, qui a quelque chose d'intriguant quand même, parce qu'il nous invite à la méfiance, Véronique. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se méfier des gens qui sourient ?
Parce qu'en fait, je pense que le sourire, ça désarme. Vous savez, on dit souvent un sourire désarmant. Oui. Donc si vous, voilà. Et puis, le sourire, c'est une forme d'étreinte. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très inquiétant, en effet. C'est quelque chose de très, très nécessaire et qui vous rend inoffensif.
Puis, il arrive qu'un sourire soit une réponse. Il arrive qu'un sourire soit une façon de cacher quelque chose, un secret peut-être.
Ah bah oui, les secrets c'est très intéressant. Les secrets d'ailleurs, les personnages dans ce livre, et particulièrement le Gloria, cette femme donc on va suivre du début à la fin du livre, c'est quelqu'un qui a une relation au secret ou qui je pense que le secret va taire un secret, finalement ça va revenir à ne pas l'alimenter. Et ne pas l'alimenter, ça va le faire mourir. Je crois qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est comme ça. Il vaut mieux taire les secrets. Mais c'est dangereux, évidemment, parce que ça peut aussi se gangréner.
Alors effectivement, il en a beaucoup, cette Gloria des secrets, ce personnage de mère et de veuve. Dès le départ, les raisons qui la poussent à prendre le maquis avec ses deux filles sont obscures. Et ce qui est certain, c'est qu'elle a peur. Et je me pose la question, quel moteur dramatique et narratif est-ce que c'est, la peur, pour vous ?
C'est important ce genre de choses, la peur, la menace. Et puis, non seulement c'est un moteur dramatique, mais c'est un moteur de vie. Il me semble qu'on a tendance, et moi aussi d'ailleurs, à avoir peur. J'ai été élevée d'ailleurs dans la peur, on va dire, la peur de ce qui était étranger, la peur de ce qui était du futur, bien sûr.
En fait, j'ai l'impression que ça vous obsède, parce que c'était déjà le cas dans Soyez imprudents les enfants, et j'ai l'impression que c'est central dans votre écriture.
Bien sûr, c'est quelque chose qui m'obsède, la peur et la méfiance et la défiance, parce que la défiance c'est une forme de peur qui serait dans l'hostilité, et c'est vraiment l'inverse du doute méthodique, finalement, la défiance. Et donc on a là pour moi quelque chose de fondamental. Je me dis toujours, alors je me parle à moi-même, je m'appelle Ovaldé en général, je me dis Ovaldé, il va falloir que tu il vaut mieux en fait être trahi que de cesser d'avoir confiance. C'est quelque chose que je me répète, c'est une forme de mantra, parce que j'étais élevée dans l'inverse de ça, et donc mes personnages, évidemment, sont eux-mêmes habités par cette méfiance et par cette peur et par le désir de ne plus avoir peur. Donc en fait, là, on a une Gloria qui est vraiment dans la peur magnifique, absolue, sur laquelle on peut rien faire, qu'elle a peur pour sa propre peau, elle a peur pour la peau de sa peau, elle a peur pour ses enfants. Donc ça, évidemment, sentir ses enfants menacés, c'est un moteur absolu.
Qu'est-ce qui vous fait peur, à vous, en vrai ?
En vrai, alors, plus grand-chose. J'avais très peur des gens. Mais justement, je crois que j'ai décidé de ne plus avoir peur.
Et les spectres, qui sont aussi des gens ?
Ah, maintenant, j'ai pas peur du tout des spectres, j'ai pas peur des fantômes. Ah non, ça, c'est vraiment ce dont j'ai le moins peur, d'ailleurs.
Quant aux fantômes, la question est plus délicate. Il semblerait qu'ils ont quelque chose à faire parmi les vivants, ou à leur faire taire. Il existe donc deux espèces aux dispositions différentes. Le spectre est un compagnon que vous convoquez malgré vous, sauf quand vous avez moins de 8 ans. Le fantôme apparaît pour son compte. Bien sûr, Gloria ne validerait jamais ouvertement ces affirmations, mais elle entretient, comme beaucoup d'anciens enfants tristes, une relation particulière aux choses invisibles. À votre avis, Véronique Ovaldé, dans quelle mesure l'écrivain entretient aussi une relation particulière aux choses invisibles? J'ai l'impression que vous ne parlez que de ça. Là.
Oui, je crois que je parle beaucoup de ça. Et je parle beaucoup des anciens enfants tristes qui finalement trouvent un recours, une fortification. Pas seulement une consolation, mais vraiment quelque chose qui nous fortifie avec les choses invisibles. Et je pense que c'est ça, être écrivain. C'est avoir une relation particulière avec ça.
Comment elle s'est développée chez vous, cette relation avec les êtres de fiction, en fait ?
Alors comment elle s'est développée, je sais plus exactement quand ça s'est passé, mais vous savez, je faisais partie de ces petits enfants justement un peu tristes, un peu mélancoliques, très très timides, et du coup qui ne sont pas très à l'aise avec le reste du monde, et qui se mettent à entretenir des relations avec des personnages fictifs qui sont à l'intérieur de vous. Et c'est très très encombrant, c'est très difficile quand on est enfant, parce que d'ailleurs on dit de vous souvent, quand vous êtes un petit enfant comme ça, on dit oh, elle est sensible. Et donc être sensible, c'est comme un handicap. Et donc ce handicap, soit vous continuez à entretenir des conversations avec des gens qui n'existent pas, et soit vous les mettez sur un papier.
L'apparition du spectre dans le roman, elle est liée à l'ennui, mais aussi à la tristesse. Est-ce que vous diriez que l'écriture naît souvent de la tristesse, en plus d'une forme de solitude ?
Ah, je pense qu'elle naît de la tristesse et de l'ennui, d'ailleurs. Je pense que c'est très intéressant, évidemment, de s'ennuyer. Et s'ennuyer, c'est pas seulement, vous savez, ce qu'on dit toujours aux enfants, il faut que tu t'ennuies, il faut que tu arrêtes évidemment de remplir tout ton temps, et puis il faut que tu t'assoies et que tu t'ennuies. Mais c'est vrai que l'ennui est quelque chose de je pense qu'on pourrait faire l'éloge de l'ennui, quelque chose de passionnant, en fait, l'ennui. Parce que c'est là que ça commence, en fait, cette relation à notre invention, notre imagination.
Alors, cet enfant triste que vous étiez, elle a réussi à s'échapper ?
Ouais. J'ai réussi à m'échapper. Je suis toujours une enfant triste. On reste toujours le petit enfant qu'on a été. Mais c'est pas grave, maintenant je suis autre chose.
Vous rêviez de quoi? Vous rêviez de vous échapper vers quoi?
De toute façon, moi je rêvais très précisément d'être écrivain. Donc je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre.
Très jeune?
Mais oui, quand j'avais 7 ans, je disais dans la cour de l'école, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je serai écrivain. Et je voyais pas très bien comment j'allais m'y prendre, mais je me suis dit, j'étais très pragmatique aussi. J'étais à la fois quelqu'un des enfants lunaires dont vous parliez tout à l'heure, des gens qui sont dans la lune, mais aussi très pragmatique. Je me suis dit, bon, faut que je m'organise. Donc, pour devenir écrivain, qu'est-ce qu'on fait? On lit, on écrit. Donc j'écrivais, je m'entraînais. C'était une forme d'entraînement. C'est un peu comme si j'avais voulu, courir le marathon, je me serais entraînée. Et ben, pour devenir écrivain, il fallait que je m'entraîne.
Ouais, on va continuer à s'entraîner tous les deux, tiens. Parce que moi, j'ai envie, ce matin. Vous me donnez l'envie, Véronique Ovalde. On va reparler d'échappée. D'échappée belle, tiens. Juste après, les Beatles, parce qu'on est vendredi, ça fait toujours du bien, les Beatles. She's Leaving Home. En 1967, vous êtes sur France Inter avec Véronique Ovalde. Vous écoutez Boomerang. On est mercredi. Non, pardon, on est vendredi.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh.
We gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves,
is leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, si elle n'était pas écrivain, on aurait pu la croire tout droit sortie d'un film d'Almodovar, vous savez, avec ses yeux verts dans lesquels se noient de sombres mystères, sa peau très claire, un peu trop claire même, comme si elle revenait d'un long séjour à l'ombre, son air bien sous tout rapport, quelque part entre la professeure d'art plastique, la pharmacienne de garde et la voisine un peu trop bienveillante, vous voyez ce que je veux dire. Qui a dit que personne n'avait peur des gens qui souriaient, tout en noir ce matin, rouge à lèvres rouges et manches violettes. Ce matin, Véronique Ovalté, invitée de Boomerang, pour personne n'a peur des gens qui sourient, en librairie mercredi. C'est difficile d'en parler en fait de ce livre sans trop en dire. Disons simplement que c'est l'histoire d'une femme qui du jour au lendemain quitte son sud natal avec ses deux filles pour se réfugier en Alsace, dans une maison de famille hantée par le passé. Quel rôle jouent les lieux, tiens, dans la construction de vos histoires en général? C'est par là que ça commence.
Je suis pas sûre que ça commence par les lieux. Ça commence en général par une silhouette. Donc plutôt quelqu'un. Alors cela dit, quelqu'un que je vois évidemment dans un lieu. La première scène du livre, elle est cette femme va quitter précipitamment son appartement et elle va chercher ses deux filles à l'école. Elle les prend, elle est sans leur dire quoi que ce soit et elle prennent la route. Mais et donc je la vois debout. C'est vraiment comme ça que ça commence. Je la vois debout au milieu d'une pièce, qu'elle va déserter. Oui. Et donc ce lieu qu'elle va déserter, en effet, évidemment, il est inhérent à ce qu'elle est elle. Et peu à peu, elle prend chair, elle s'incarne. Et du coup, les lieux aussi s'incarnent. Et cette maison où elles vont, qui est une maison un peu spectrale justement, oui, une maison, ces maisons au milieu de la forêt, donc elles ont quelque chose d'inquiétant. Et en même temps, elles sont un recours, ces maisons. Ces maisons, vous savez, on se sent protégé au milieu des arbres, au milieu de la forêt, près du lac. Mais c'est aussi des endroits qui peuvent être vraiment inquiétants.
Et puis la maison, c'est aussi un lieu de transmission, non?
Oui, c'est un lieu de transmission, bien sûr, parce que voilà, c'est la maison de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. Et donc, ce sont des lieux évidemment plein d'histoires, chargées de récits, et on est fabriqué avec ça.
Parce que j'ai l'impression que ce thème de la transmission qui hante vos maisons, là en l'occurrence la transmission mère-fille, c'était déjà très présent dans Ce que je sais de Vera Candida notamment, ça n'en finit pas de vous travailler, ce thème-là?
Oui, ça me travaille. Je me pense que, je sais pas, ça travaille plein de gens, non? non, mais ça me travaille. Mais alors, il y a plein de choses qui me travaillent. D'ailleurs, vous aurez compris. Mais ça, évidemment, ça m'importe. Ça m'importe ce que j'ai reçu. Évidemment, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai reçu et ce que je vais donner. Ce que je vais donner et surtout ce que je ne veux pas donner.
Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents?
Des choses qui sont pas mal, mais des choses qui sont atroces. Et donc, voilà, moi j'ai une maman à l'ancienne adorable, mais qui acceptait, on vous pour le dire vite, la domination masculine avec beaucoup de placidité et de tranquillité. C'est plus le cas maintenant d'ailleurs, elle s'est rebellée. Et donc c'est quelque chose que je veux pas donner à mes enfants. Je veux pas leur dire, t'as pas le droit de regarder dans un bistrot quand tu passes devant. C'est ce qui était le cas quand j'étais gamine.
À vos enfants et à vos lecteurs. Aussi, Véronique
et à mes lecteurs, bien sûr, parce que c'est ça aussi la transmission, c'est à mes enfants, puis c'est aussi ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de raconter, de ce que c'est en fait une forme d'émancipation, d'affranchissement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois qu'en fait, l'affranchissement, c'est quelque chose quand même de toute façon qui traverse, qui est une sorte de fil rouge ou de fil à plomb. C'est plus un fil à plomb, c'est mon fil à plomb.
C'est avec un texte sur la littérature que vous êtes venu accompagner ce matin. Un texte que vous avez écrit spécialement pour cette émission et je vous en remercie. On pourra le retrouver sur le site de France Inter parce que je le trouve particulièrement lumineux. J'aimerais que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
Très bien, je vais faire ça. Alors, je voudrais parler de cette grosse bête dont on nous dit si souvent qu'elle est presque morte, la littérature. Il m'a toujours semblé que le lecteur et l'écrivain avaient en commun leur qualité d'enquêteur. L'éditeur aussi d'ailleurs. Un éditeur serait un lecteur qui a réussi, n'est-ce pas? Qui a réussi à faire lire aux autres les livres qu'il aimait. Un lecteur qui a su fédérer et convoquer, qui a su trouver. Mais si l'écrivain cherche son chemin vers la clairière, le lecteur, lui, accepte de sauter dans le vide en tenant éventuellement la main d'un écrivain. Un livre, qu'on l'écrive ou qu'on le lise, demande de la vigilance. Et vivre aussi, bien sûr, demande de la vigilance. Le tout est de voyager le plus possible en zigzag vers la mort et d'avoir du courage. Avoir du courage, c'est ouvrir les yeux dans l'obscurité et ne pas avoir peur de tomber. Et quand on écrit, on tombe souvent. Et on a peur souvent. Peur d'être mauvais, peur de l'échec et du ridicule, peur d'habiter l'enfer des mauvais écrivains. Il faudrait que l'on cesse de nous ressasser que la littérature est morte. Pour ma part, je continue de croire en la fiction, en l'invention, en la prolifération des mots. Je continue de croire que la littérature est la réponse idéale et imparfaite à notre appétit d'histoire et notre désir de langage et de musique. Il s'agit de rester loyal à l'enfant que nous avons été. Stevenson a écrit quelque chose comme, alors j'ai pas retrouvé la citation précise malgré Google, Stevenson disait que le but de toutes les histoires, c'est de satisfaire le désir ardent de celui qui les lit. Pour ce faire, il faut obéir aux lois idéales de la rêverie, aux coïncidences et à l'appétit de correspondance mystérieuse. L'appétit de correspondance mystérieuse. Et puis, si la littérature n'est pas encore morte, mais qu'elle agonise dignement, alors je me dis qu'il faut tenter peut-être de se résigner. Mais cette résignation, qui n'est ni une acceptation, ni un renoncement, serait plutôt un état de mansuétude, une humilité particulière. Le choix que nous avons fait de la littérature n'est pas le meilleur choix pour être une fois pour toutes moderne et riche. Nous sommes des merles blancs au milieu de ce siècle, et moi j'ai toujours aimé les merles blancs. On souhaiterait que la littérature soit un exercice d'intelligence, de tolérance et d'aventure. Mais peut-être n'est-elle, comme le disait Henry James, qu'une tendance à l'observation pointilleuse des choses. Et en fait, c'est déjà pas si mal.
Merci infiniment, Véronique Ovalde, d'être venue faire un tour dans cette émission, de conclure la semaine ainsi. Je rappelle que Personne n'a peur des gens qui sourient sort mercredi et que c'est publié aux éditions Flammarion. Un conseil, vous avez plutôt intérêt à vous méfier de l'eau qui dort. C'est tout ce que je dirais. Merci à toute l'équipe de Boomerang.
Merci beaucoup.
Anxi, Pierre Martinerie, Valentine Chesdebois, Lola Costantini, Léonard Billot, Paul Guillotte et puis la petite Anna qui nous a accompagnés toute cette semaine. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. À Vincent, Nuit sans sommeil sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia, l'instant M.
On est là, on est là et on parle anglais, mon cher Augustin.
Très bien. C'est une très bonne idée. On est comme sur France Inter, on parle un peu français.
On va parler un peu français. Bon. Salut Augustin, à demain.